7h35, quelle belle journée ensoleillée qu'on a sur Québec. Profitons-en. Mettons un peu de chauffage en voiture, puis on baisse un petit peu la fenêtre.
Moi, j'ai ouvert le toit ouvrant ce matin.
Ouais, j'ai vu ça.
Oh!
T'as mis une belle photo de ta face et de ton toit ouvrant. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais...
Qu'est-ce que t'as préféré?
Ben,
le toit ouvrant.
Le toit ouvrant. Donc, c'est plein soleil à Québec. C'est à 3 degrés actuellement. C'est ce qu'on aura tout au long de la journée. Un maximum de plus 4 degrés. Donc, ça va peut-être se réchauffer. Ce soir, on parle de pluie qui devrait débuter tôt en soirée. Température stable à près de 4 degrés. Demain, mercredi, c'est de la pluie intermittente qui devrait cesser en après-midi. Ce sera nuageux par la suite avec 40% de probabilité d'averse. Maximum de 8. Jeudi, nuageux, maximum de 7. Vendredi, ce sera nuageux, maximum de 6. Samedi, beau week-end de Pâques et congé de Pascal. Samedi, ciel dégagé, maximum de plus 3. Dimanche, ensoleillé, maximum de plus 3. Et lundi, ce sera ensoleillé avec un maximum de plus 3. Donc, pas de tempête de neige de prévu pour ce qui est du week-end. Ce serait le fun, on va en profiter.
Un vrai week-end de Pâques avec une condition extérieure intéressante pour de la tire.
Ah, voilà, voilà, voilà. On salue les gens qui sont dans les cabanes à sucre, qui travaillent extrêmement fort. J'ai mangé mon premier cornet de
beauceron.
Ouais, de tire d'érable, effectivement. J'ai mangé mon premier cornet de beauceron samedi. Il était délicieux.
T'es plus beurre d'érable au complet dedans ou beurre d'érable et tire?
Moi, j'aime de tout les
t'es
produits
sucré,
de l'érable.
Toi. Ouais.
Je pourrais me promener dans le bois, pogner une chaudière puis boire l'eau d'érable sans aucun problème.
Ouais. Mais t'aurais un petit peu de problème gastrique,
Ouais, c'est ça. On jase avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est au bout du fil. Salut, Nick.
Salut tout le monde, ça va bien?
Ben oui, yes. Toi, as-tu quelque chose de prévu en fin de semaine?
Ben là, tu m'en parles pas mal à l'avance, on est mardi, fait que j'ai pas encore prévu mon week-end, mais écoute, sûrement faire un tour dans les cabanes à sucre là, pour en profiter un petit peu, là, ça risque d'être dans mes plans prochainement.
T'es un gars d'opportunité, toi, t'attends tout le temps la dernière minute pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi.
Malheureusement, oui. J'ai beaucoup de déplacements à Ottawa de prévu dans les prochaines semaines. Donc, je vais arranger ce qui arrive sur le coup. Mais oui, je peux pas comme passer à côté de visiter au moins une cabane à sucre par année durant cette période-ci. Mais on dirait que j'ai comme moins le goût. Il y a tellement plus de neige nulle part qu'on dirait qu'on est quasiment sur le bord de rentrer à l'été. Fait qu'on dirait que la période des sucres est quasiment passée, mais on est en plein dedans. En tout cas, c'est un peu bizarre, mais... Je vais quand même y aller.
Moi, c'est pas grave. T'es Montréalais. On te pardonne, on te pardonne.
On a ici de la neige, je devrais...
Lavalois.
Ah, c'est pire!
Comment ça va, vos ponts dans votre secteur? Y a-t-il des dangers qu'un bateau rentre dedans? C'est la grosse nouvelle, autant aux États-Unis qu'au Canada. Tout le monde parle de ça. L'effondrement d'un pont, un gros bateau, un porte-conteneur qui a rentré dans la structure du pont puis qui l'a totalement mis à terre ou mis à l'eau. Là. C'est une tragédie, ça, Nick, hein?
Ben oui, absolument. Puis je veux dire, il n'y a personne qui voudrait que ça arrive de notre côté. C'est pas pire à Laval. Il n'y a pas vraiment de transport ou de tant de trafic maritime que ça dans notre coin. Mais on s'entend que si ça arrive dans le coin de Québec, par exemple, tu sais, avec deux ponts, il y en a un qui serait affecté comme ça. Je sais pas à quel point il y a beaucoup de circulation de transporteurs de containers. On s'entend là, que ça prend quand même tout un bateau pour être en mesure de faire effondrer une infrastructure de ce type-là, mais on s'entend que du jour au lendemain, quand d'un, les morts, c'est déjà très dommage là, de savoir qu'il y a des personnes qui sont disparues puis qui ont été carrément, là, je veux dire, qui sont retrouvées dans l'eau parce que le pont s'est effondré pendant qu'il était dessus, mais en plus, on s'entend que ça crée un paquet de problèmes pour la suite des choses, ne serait-ce que le transport maritime est bloqué, les gens ne peuvent plus traverser... Je veux pas que ça arrive au Québec parce qu'on s'entend que nous, notre côté, avant qu'on construise un nouveau pont pour le remplacer, ça va nous prendre 10-15 ans. Donc, espérons qu'on n'ait jamais une scène de ce type-là. Mais oui, ça va être quand même l'horreur à Baltimore en ce moment. Là.
Ouais. Puis c'est ça,
ça fait triste de voir ça.
Ça
arriver.
Frappe l'imaginaire. Je me souviens de l'effondrement du pont de la Concorde, là, du viaduc de la Concorde. Tu disais, OK, moi, je travaillais dans l'actualité à ce moment-là, puis on disait, au Québec aussi, on a des viaducs qui font dur ailleurs que dans ce secteur-là. On se rappelle que le Québec a été bâti sous la loi du plus bas soumissionnaire. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire qui remporte le contrat pour faire nos ponts puis pour faire nos viaducs. Tu te dis, ouais, mais là, le gars, c'est un entrepreneur, il n'est pas là pour perdre de l'argent. Donc, ça a été le plus bas soumissionnaire, puis il a réussi à faire quand même de l'argent sur le viaduc. Je vais te dire que je ralentissais avant de passer sous un viaduc, puis une fois que j'arrivais très près du viaduc, là que j'accélérais, je te donnais un coup de gaz, mon homme, pour passer le plus rapidement possible en dessous du viaduc. Puis là, aujourd'hui, les gens ils paniquent en étant sur le pont. Tu sais, ce soir, là, quand il va y avoir le retour à la maison, il va y avoir beaucoup de circulation sur les ponts au Québec. À quoi tu penses que les gens vont penser s'il y a un porte-conteneur qui passe en dessous?
Ben, tu sais, en même temps, c'est, on s'entend que là, ils vont avoir encore plus de raisons de capoter. On veut pas que les gens se mettent à paniquer encore plus. Mais c'est sûr, tu sais, comme je rappelais l'exemple de Québec, vous avez deux ponts présentement. Il ouais. faudrait que un, seul, ne serait-ce que cet accident-là arrive à un des ponts, peut-être pas pour que le pont s'effondre, mais que ça affecte la structure assez pour empêcher la circulation pour de bon, là, le temps que le pont soit complètement refait. Et ça vient de changer la game au grand complet. Fait, bref, je pense. J'espère que ce genre de situation-là, aussi tragique que ça puisse être, ça va quand même allumer, comment dire, là, certains génies à Québec qui vont peut-être réaliser qu'on a peut-être besoin de plus que deux liens à Québec. Parce que si jamais il arrive une situation de ce type-là, ben oui, on se retrouve un petit peu pris au dépourvu pour très longtemps. Donc, bref, c'est ce qui arrive. Il faut faire de la prévision à long terme.
Ouais.
Mais encore là, je veux dire, on espère quand même qu'une situation de ce type-là va être quand même contrôlée. Puis ce qui est assez intéressant, ce que je disais tantôt, c'est que le bateau quand même est en mesure d'envoyer un SOS ouais. pour sauver des vies.
Ouais.
Donc, il y a au moins ça de positif au final, mais bon, on ne veut pas que ça se passe au Québec d'une manière ou d'une autre.
Non, puis tu sais, quand je me suis levé ce matin, je me suis dit, il fait bon vivre de ne pas être le pilote de ce bateau-là.
Ouf, ouf, ouf. Mais c'était pas non, de sa faute, de plus en plus on comprend. Sais,
mais veut pas. Ah, ouais, c'est toi qui es aux commandes du navire, puis là, ben tu, il arrive une tragédie de même, tu fais le tour du monde. Là,
je pense que t'es à l'hôpital
secondes.
Longtemps, ah, mettons mentalement.
Tu t'en remets pas de ouais. ça. Hey, on ben parle oui. avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On a plein de sujets à jaser avec vous autres. C'est quoi l'histoire que tu nous as racontée sur Twitter où les libéraux fédéraux veulent bouger la date des élections fédérales parce que semblerait que ce serait très payant pour certains?
Oui, bien en fait, ce qui s'est passé en catimini à la Chambre des communes récemment, c'est qu'il y a une commission parlementaire qui penche sur le travail, ben, la loi C-63, puis ça a pour but de faire une modification. En fait, ben, c'est la loi électorale, la loi C-63, puis ils voulaient en faire la modification pour bouger d'une semaine. En fait, parce qu'au Canada comme au Québec, on a dans la loi sur les élections, on a un amendement qui dit qu'on doit avoir des élections à date fixe. Donc, comme vous le savez, là, au Québec, c'est le 1er octobre. Au fédéral, c'est supposé être le 20 octobre 2025, les prochaines élections, si elles ne sont pas déclenchées avant, considérant que c'est quand même un gouvernement minoritaire. Mais majoritaire, peu importe les circonstances, c'est là qu'on a des élections. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que ça tomberait apparemment, puis je dis pas apparemment, en fait, officiellement, ça tombe en même temps que la fête Diwali ou Diwali, qui est une fête indienne, qui est une fête de célébration assez importante. Puis, sachant qu'il y a quand même une bonne communauté indienne au Canada, ils ont dit, ben, les élus, tant les libéraux que les néo-démocrates, sont attendus pour repousser d'une semaine les élections. Du moins, ça, c'est la raison pour laquelle ils disent d'avoir fait ce déplacement de date d'élection. C'est essentiellement pour accommoder les gens qui vont célébrer la fête indienne. Sauf que, quand on regarde dans les faits, tous ces élus, au-dessus de 80 élus, qui ne serait pas éligible à une pension d'élu fédéral si les élections ont lieu avant le 20 octobre, ou ont lieu avant plutôt le 21 octobre, parce que c'est la date à laquelle ils peuvent se qualifier pour la pension.
OK. Donc pour être élu, essentiellement, ouais, Nick, pour être élu au fédéral, pour être élu et avoir droit à ta pension, c'est 6 ans minimum que tu dois faire en tant que député au fédéral. Au Québec, je crois que c'est 2 mandats, c'est ça?
C'est exactement. Dans les deux cas, il faut être réélu 2 fois. Au Québec, si je ne m'abuse, c'est 2 mandats pleins. Au fédéral, c'est 6 ans. Bon, donc, généralement, c'est au moins 2 mandats, mais ça peut être coupé si jamais vous tombez dans un gouvernement minoritaire ou autre. Mais tant que vous êtes réélu 2 fois et que vous faites 6 ans, vous qualifiez pour une pleine pension. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette pension-là, elle est calculée de plusieurs manières. C'est-à-dire que c'est une fraction, c'est 18 % du salaire que vous empochez en tant que député, auquel vous avez accès à partir de l'âge de 55 ans ou 65 ans. La raison pour ça, c'est parce qu'à 55 ans, vous pouvez prendre votre pension de député fédéral, mais vous perdez 10 % parce que vous n'avez pas 65 ans. Donc, vous perdez 1 % par année qui vous sépare de l'âge de 65 ans, ou vous pouvez prendre pleine pension à 65 ans. Je sais que c'est un petit détail de rien, mais à ça aussi, pour ajouter le fait que quand les députés perdent leurs élections, ils ont droit à une allocation de transition qui équivaut quand même à 50 % de leur salaire, ce qui est quand même assez intéressant au final. Donc, quand on considère toutes les allocations de transition pour les 80 députés qui seraient maintenant éligibles à la pension, et qu'on constate aussi le montant qu'ils vont nous coûter en pension entre le moment où est-ce qu'ils vont la percevoir et l'âge de 90 ans, L'ensemble de cette députation-là, juste par la modification de la loi sur les élections, va faire en sorte qu'ils vont nous coûter 120 millions de dollars supplémentaires aux contribuables, ne serait-ce qu'en pension puis en allocation de transition. Donc, c'est fou à quel point un simple comité parlementaire avec une simple modification de date peut avoir un impact assez drastique, ne serait-ce que sur des pensions qui sont versées. Il faut comprendre que tous ceux qui seraient éligibles, vous l'aurez compris, ça fait 6 ans. Donc, on faut retourner 6 ans en arrière, les élections de 2019. C'est les députés élus en 2019 qui sont principalement éligibles. Il y a beaucoup de libéraux, mais il faut aussi dire quelques conservateurs et le 2/3 de la députation bloquiste en fait également partie. Parce qu'il faut rappeler qu'avant que Yves-François Blanchet arrive à la tête du parti, en 2018-2019, il y avait environ 10 députés bloquistes. Aux élections de 2019, sont retrouvés environ à 34-35. Donc, tous ces gens-là sont maintenant qualifiés. Bon, c'est peut-être pas eux qui sont les plus menacés dans le cadre d'une élection si jamais c'est déclenché demain. On comprend que ceux qui ont le plus à cœur de se sécuriser une pension présentement, c'est surtout ceux qui sont menacés de perdre leur poste ne serait-ce qu'aux prochaines élections. Donc, bon, les libéraux et les néo-démocrates, surtout les libéraux, sont touchés, et surtout ceux à l'extérieur du Québec. Donc, c'est se demander, est-ce que c'est vraiment une modification de la date des élections pour accommoder les gens à cause d'une fête indienne, comme c'est ce qu'ils disent depuis le début, ou si finalement, c'est pour piger dans l'argent des contribuables et se payer des pensions que monsieur et madame tout le monde n'a pas accès. Parce que je suis persuadé que si je demande à n'importe qui écoute présentement, avez-vous droit à une pension après 6 ans de travail?
Ben non.
Je suis pas mal sûr que c'est pas le cas, t'sais.
Non, non. Puis c'est des gens qui sont déjà privilégiés avec le salaire qu'ils ont depuis toutes ces années-là. Je comprends là, que ils ont travaillé pour les Canadiens et tout ça, mais les règles étant ce qu'elles sont, ils doivent faire leurs 6 ans. Parce que sinon, à quoi ça sert de mettre des règles si c'est pour tout le temps les transgresser pour que 80 députés au fédéral puissent bénéficier d'une pension? C'est une pension qui est à vie après leur mandat ou bien c'est une pension qui arrive à 60 ans ou 65 ans?
C'est une pension qu'ils peuvent prendre à partir du moment qu'ils arrivent à l'âge de 55 ans. Généralement, c'est 65 ans, mais ils ont une pénalité. Ils peuvent la prendre à 55 ans, mais ils sont pénalisés de 10% sur la pension. Donc, ils ont droit à 90% de leur pension à 55 ans. Il faut quand même prendre en considération que les élus ne sont pas jeunes non plus. Plusieurs d'entre eux vont sortir de la politique. Puis il y a peut-être en 5-10 ans, ils vont être automatiquement qualifiés pour la pension. Donc, c'est sûr qu'ils n'auront peut-être pas accès directement. Tous les politiciens qui ont plus de 55 ou 65 ans vont clairement se qualifier pour l'obtenir. Puis il faut aussi ajouter à ça que, généralement, ils n'ont pas que des pensions avec le gouvernement, ou du moins avec le Parlement. Ils ont aussi des pensions qui ont été accumulées ailleurs. Donc, bon, ça, c'est libre à eux. C'est correct s'ils ont des pensions dans le privé. Mais dans le public, ça va quand même s'accumuler comme tel. Donc, ça devient très intéressant. La plupart, si on regarde, par exemple, les pensions, mettons les pensions annuelles pour un député, un backbencher qui se qualifie pour la pension comme tel, on parle d'environ entre 32 000 et 48 000 $ si c'était quelqu'un qui était ministre. Donc, c'est pas non plus la grande cagnotte du siècle, vous allez me dire, mais c'est supérieur quand même à la pension de bien des Canadiens au pays. Et il faut rappeler que c'est une pension qui a été accumulée en 6 ans à peine. Puis, je veux dire, c'est aussi vrai pour quelqu'un qui a été ministre puis qui s'est peut-être démarqué le plus positivement que possible qu'un backbencher que vous avez jamais entendu parler de votre vie à l'autre bout du pays qui soudainement se qualifie pour une pension à vie. Donc, c'est quand je dis une pension à vie parce que vous y avez droit à 55 ans, mais nous, on a fait le calcul en fonction de si vous atteignez l'espérance de vie approximative au Canada, donc aux alentours du 87-88 ans. Donc, ça représente quand même une cagnotte significative pour chacun de ces élus-là.
Sur contribuable.ca, on peut voir que vous avez diffusé hier un sondage sur votre page web. La Fédération canadienne des contribuables qui a commandé un sondage léger, c'est ça, pour en ce qui a trait à l'augmentation des salaires de députés qui est prévu le 1er avril prochain?
Exact, parce que si on parle des pensions, ça vaut aussi la peine de parler des salaires qui vont augmenter parce que le 1er avril prochain, on a droit à tout un poisson d'avril comme c'est le cas chaque année. On a la fameuse taxe carbone fédérale qui augmente. Ça nous affecte un peu moins directement. Mais il y a la taxe d'accise sur l'alcool, encore une fois, au fédéral, qui, elle, affecte tout le monde. Et finalement, on parle quand même d'une augmentation de 2%, mais ça affecte les restaurateurs, les tenanciers de bar et tout ça. Et au final, vous avez l'augmentation des salaires des députés à la Chambre des communes parce que oui, ils ont un mécanisme qui est intégré dans la loi qui fait en sorte qu'ils ont droit à une augmentation de salaire automatique à chaque année. Et cette année, on va officiellement passer la marque symbolique du 202 000 pour le salaire des élus backbencher. Donc, c'est pas la première fois qu'on va avoir des élus qui sont essentiellement, si vous êtes élu député demain, même si vous êtes indépendant et que vous êtes dans aucune formation politique, vous commencez quand même votre carrière politique avec au moins exactement 202 700. Et bref, cette augmentation de salaire est assez intéressante. Elle se compare à ce qu'on observe dans le secteur privé. Mais il n'en reste que nous, au final, on veut savoir est-ce que les gens sont d'accord, considérant le contexte de l'économie, des finances publiques, et aussi de se dire, bon, ils augmentent les taxes et en plus, ils augmentent les salaires. Est-ce que ça fait du sens? Et on a donc posé la question à bien des Canadiens via l'EG. Et je suis fier de dire que quand même 80 % des répondants s'opposent à ce que les élus à la Chambre des communes se versent une augmentation de salaire, parce qu'il n'y a pas juste les députés qui y ont droit, les ministres aussi y ont droit. Ils vont aller chercher un ministre, cette année, il va chercher 12 000 $ de plus que l'année précédente, mais 35 000 de plus que ce qu'il gagnait en 2020. Et pour Justin Trudeau, par exemple, son salaire passe de 389 000 à 405 000. Donc, c'est une augmentation quand même de 16 000 $ cette année, ou par rapport à 2020, on parle d'une augmentation de 48 000 $ Donc, c'est quand même assez intéressant. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des augmentations de salaire de ce type-là au cours des dernières années.
Ah, mais c'était pour.
Si vous avez une augmentation de votre salaire de manière automatique chaque 1er avril, mais c'est le cas pour nos élus et les contribuables sont pas d'accord.
Mais c'est épouvantable. Puis de voir que 80 % des gens sont contre, moi, je suis. Ça me rassure un peu parce qu'effectivement, ces gens-là font partie des plus nantis de la société. Puis de se voter constamment des augmentations de salaire à n'en plus finir avec des pensions à vie après 6 ans, à un moment donné, là, ils ne peuvent pas continuer à nous endetter, nous en demander toujours plus dans nos poches, puis eux autres, de leur côté, en mettre de plus en plus dans leurs poches. C'est très mal vu, mais en même temps, écoute, c'est là où on en est rendu. Puis qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, Nick? T'sais, mis à part le dénoncer, là, puis moi, j'adore la Fédération canadienne des contribuables pour ça, parce que vous travaillez extrêmement fort pour dénoncer tout ce qui se fait avec les politiciens. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Comment on peut s'opposer à des augmentations de salaire qui n'ont pas de maudit bon sens? T'sais? À l'Assemblée nationale, 30 % d'augmentation de salaire, puis tu as un François Legault qui dit, ben là, tout le monde a le droit de se ramasser un max de pognon pour que ses enfants puissent en bénéficier. Oui, mais un peu, nous autres, vous nous prenez constamment plus d'argent dans nos poches, puis vous nous endettez plus qu'on devrait être endetté, puis vous autres, vous avez des augmentations de salaire. C'est un non-sens.
Exact. Puis au final, on dit qu'on veut s'en mettre plein. On essaie d'en laisser plus pour les prochaines générations, comme le disait François Legault. T'sais, on va donner les meilleurs salaires parce que on veut des parents en politique qui veulent laisser que pour leurs enfants. On comprend le principe, mais c'est quand même des parents à l'extérieur de la politique qui payent pour les salaires des politiciens. D'un autre côté, tu nous demandais c'est quoi la meilleure solution pour ça. Je tiens à dire que la fameuse, pour venir à la question de l'augmentation de la taxe sur la taxe sur l'alcool, par exemple, était supposée augmenter de 4,7 % cette année. On a réussi à faire pression pour qu'elle soit limitée à 2 % et qu'elle soit plafonnée pour une deuxième année d'affilée. Ça, c'est le résultat de beaucoup de pression qu'on a faite sur la ministre des Finances, Mme Freeland, au cours de la dernière année, justement parce qu'on défend à la fois les contribuables, mais les restaurateurs également et l'industrie de l'alcool comme tel. On veut vraiment que, dans le fond, on protège l'économie et le portefeuille des contribuables d'un bout à l'autre. Ça a fonctionné pour ce combat-là, du moins ne serait-ce qu'en partie. Pour la question des salaires, nous, ce qui est très intéressant à mentionner, c'est que pour l'instant, on entend beaucoup des gens chez les conservateurs chialer sur les dépenses des libéraux, les dépenses du gouvernement de Trudeau, mais on les entend pas beaucoup chialer sur les salaires. On aimerait vraiment les entendre interpeller Justin Trudeau sur ces questions-là et aussi de démontrer une forme de solidarité puis de s'opposer à l'augmentation de leur propre salaire. Clairement que d'une manière ou d'une autre, à l'augmentation qui va avoir lieu le 1er avril prochain, les conservateurs comme les libéraux, comme les néo-démocrates et les bloquistes vont tous en profiter. De la même manière qu'ils vont tous profiter d'une certaine manière déplacement de la date des élections. Donc, ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir les partis de l'opposition, incluant le Bloc québécois et les néo-démocrates, dénoncer cette situation-là. On est en mesure de faire pression présentement sur eux. On augmente tranquillement la cadence parce que le 1er avril arrive prochainement. C'est sûr que, d'une manière ou d'une autre, ce genre de choses-là risque de passer quand même, mais il faut que le gouvernement comprenne qu'il y a un prix à payer quand on se moque allègrement des contribuables comme ils font avec ce genre de mécanisme-là. Donc oui, maintenir la pression, aidez-nous à le faire Et nous, on va s'assurer de continuer à défendre les contribuables sur toutes les tribunes.
Tu sais, puis tu as dit tantôt, puis je t'en tiens pas rigueur d'avoir dit ça, mais tu as dit que ça équivaut à peu près au salaire qu'on peut voir dans le privé, mais ces gens-là, les députés fédéraux... Tu sais, moi, j'ai vu des députés provinciaux, je vais même me permettre de le nommer, le Janvier Grondin, qui était en Beauce, où j'avais la chance de le suivre pendant quelques mois. Il travaillait fort, M. Grondin, tu sais. À 6 heures du matin, il se levait, prenait ses courriels, répondait à tout le monde, puis il se couchait des fois après des soupers spaghettis à 10-11 heures le soir, puis il reprenait ses courriels, puis après ça, il dormait 4-5 heures, puis retournait travailler. Le monsieur n'était pas jeune, Janvier Grondin, à l'époque, quand il était député. Députés fédéraux, là, ça a l'air assez relax, leur emploi. On compare ça à quoi, un député fédéral, dans le privé?
C'est une bonne question, parce qu'en réalité, c'est pas tant le salaire, peut-être que je me suis un peu trompé là-dedans, c'est pas tant le salaire qui est comparable à ce qu'on trouve dans le privé. C'est plus l'augmentation du salaire qui, elle, est-ce qu'on part aux conventions syndicales qui sont conclues dans les entreprises, qui sont généralement de 500 salariés ou plus. C'est vraiment sur cette augmentation-là. Mais sinon, quand on prend le salaire d'un député au fédéral, on trouve généralement ce type de niveau salarial-là dans sur des comités d'administration de grandes compagnies où on parle vraiment des hauts fonctionnaires au Québec qui gagnent ce genre de salaire-là, des dirigeants. De certaines de nos sociétés d'État sont dans ces eaux-là. Je veux dire, le salaire, par exemple, de Justin Trudeau se compare à celui du dirigeant, soit d'Hydro-Québec ou peut-être pas d'Hydro-Québec parce qu'on est dans les 600 000 présentement, mais on est quand même dans ce type de tranche-là. Donc, on est vraiment dans un monde complètement différent. Et comme tu l'as mentionné, au final, sans dire que les députés au fédéral font pas de travail, il n'en reste que c'est les députés au provincial qui font la plus grande part des choses. Dans la vie de tous les jours, de toute manière, entre le provincial et le fédéral, la différence, c'est que vous allez dealer avec 9 fonctionnaires provinciaux avant de dealer avec un fonctionnaire fédéral. Donc, c'est la même chose aussi dans la question des champs de compétences. Il y a plus de responsabilités entre les mains des députés provinciaux et du gouvernement provincial qu'il y en a entre les mains du fédéral, mais quand on regarde les salaires, puis les portefeuilles des différents ministères, c'est deux mondes complètement différents. Mais il n'en reste que c'est injustifiable de donner des aussi gros salaires. Déjà que les salaires sont très intéressants, mais de les augmenter en plus pendant qu'on augmente les taxes, c'est là que ça devient hypocrite, ça dépasse l'entendement.
Oui, puis tu sais, moi, je serais pour qu'un jour nos politiciens, ceux qui sont ministres, par exemple, puissent être payés avec des bonus. Je veux dire, s'ils remplissent les objectifs, s'ils réussissent à nous faire sauver de l'argent, exemple, s'ils réussissent tous les objectifs qui se sont donnés au début de l'année, des bonus, j'aurais pas de trouble avec ça. Mais actuellement, ils sont là pour 4 ans, tu peux pas y crisser dehors, même s'ils sont mauvais, tu sais.
Puis c'est un peu ironique de dire tu peux choisir ton salaire sans que quelqu'un évalue si tu le mérites pas. C'est comme moi, mettons, j'arrive d'un matin à la station, il me semble que je mérite un 25 000 de plus. Je vais me voter ça. Tu trouves pas ça un peu étrange?
Il faut avoir des bons arguments, mettons.
Ben non, mais t'es avec toi-même. C'est sûr si on se met en gang ici, on se vote tous une augmentation de salaire, là.
Ouais.
Ben c'est ça. C'est un véritable conflit d'intérêts. Puis c'est aussi vrai avec ce qu'on a vu l'année passée avec les députés de l'Assemblée nationale que ce qu'on voit présentement avec la Chambre des communes. C'est que c'est pas les élus qui devraient se voter une augmentation de salaire. Ça devrait être pris en charge par un comité indépendant. Oui. Des gens, des observateurs. Qui devraient être le moins possible du monde politique, mais plutôt des gens qui ont une compréhension du monde politique et qui sont en mesure de dire « OK, ben ça fait du sens, ça fait pas de sens ». Mais d'une manière ou d'une autre, cette année, c'est clairement que ça fait aucun sens de procéder à des augmentations de salaire à tous les niveaux, surtout quand on voit les déficits qui nous sont laissés. Au provincial, bon, on a déjà les chiffres, mais au fédéral, 2 semaines après que les députés s'augmentent leur salaire, on va voir sûrement un déficit plus gros que ce qui est annoncé dans la dernière mise à jour économique d'automne. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est encore plus irresponsable de se payer une augmentation de salaire en disant qu'on laisse les finances publiques dans le rouge pour les prochaines décennies. Donc, c'est sûr et certain que tant qu'on n'est pas en mesure d'avoir un budget équilibré, tant à Ottawa qu'à Québec, augmenter les salaires des élus, ça fait aucun sens.
Prochaine campagne électorale fédérale, bon, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va être. Là. J'imagine que ça va aller jusqu'à la fin du mandat parce que le Bloc québécois semble être très complice avec Justin Trudeau. Même chose pour ce qui est du NPD. Comment les politiciens vont réussir à être sexy avec la fameuse taxe carbone?
C'est une bonne question, parce que la taxe carbone, en ce moment, c'est parti pour être le sujet de la prochaine campagne électorale. Wow. Puis au Québec, ben c'est un peu que ça va nous passer presque six pieds par-dessus la tête dans un sens, parce que faut le rappeler, puis moi-même, qui est un pourfendeur de la taxe carbone au Québec et au fédéral, on ne paye pas la taxe carbone fédérale au Québec, du moins pas directement. C'est-à-dire que tout le reste du Canada la paye, mais vu que ça augmente les prix nécessairement dans le reste du pays, puis que c'est notre le reste du Canada étant notre principal partenaire commercial, ben ça affecte un peu les prix qu'on va payer pour les échanges de biens et services avec le reste du Canada. Mais nous, personnellement, le 1er avril, on n'est pas affecté par la hausse de la taxe carbone comme c'est le cas partout ailleurs. Donc, mais il n'en reste qu'au final, ça va être vraiment le cheval de bataille. On l'a vu, en fait, la semaine dernière, parce qu'il y a eu un vote de confiance, en fait, sur la question de la taxe carbone. Et ça fait suite au fait qu'on a plusieurs premiers ministres provinciaux, en fait, on en a 7 présentement sur les 10, qui ont décidé de dire non, nous, on s'oppose à l'augmentation de la taxe carbone ou on s'oppose carrément à la mise en place de la taxe carbone. Donc, on est rendu avec une unité nationale anti-taxe carbone, ou du moins une unité nationale qui est en train de se mettre en place. Les trois députés, les trois premiers ministres qui n'étaient pas de l'équation, c'est celui du Yukon, de la Colombie-Britannique et du Québec. Les deux derniers que j'ai nommés, c'est parce qu'ils ont leur propre taxe carbone, encore une fois. Donc, ils n'embarquent pas dans ce front commun contre la taxe carbone fédérale. Mais il n'en reste que, tranquillement mais sûrement, c'est rendu une politique qui est considérée, peut-être pas juste irresponsable, mais de plus en plus impopulaire. Ça paraît également parce qu'on a des récemment dans le Parti libéral de l'Ontario qui cherche un nouveau ou une nouvelle chef. Il y a une candidate récemment qui s'est annoncée en disant « Moi, si jamais je suis élu, je vais me battre contre la taxe carbone fédérale, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de taxe carbone provinciale en Ontario. » Donc, c'est rendu au point où est-ce que même des libéraux dans plusieurs provinces s'opposent à cette taxe-là. On a également Andrew Furey, qui est le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador, qui s'oppose à la taxe carbone et qui est le seul premier ministre provincial dans tout le Canada qui est libéral. Donc, ça démontre que Trudeau a de moins en moins d'alliés sur ce dossier-là. À part, comme tu l'as mentionné au départ, Yannick, il y a des alliés à la Chambre des communes. On sait que, par exemple, Yves-François Blanchette est un fervent défenseur de la taxe carbone pour la principale raison que c'est lui qui l'a mis en place au Québec. Il faut rappeler, il était ministre de l'Environnement en 2013 quand ça a été mis en place sous le thème de la bourse de carbone. Et au fédéral, ben, il va défendre un peu cette continuité de son héritage ou de... comment dire, cette conviction qu'il y a en commun avec Trudeau. Donc, d'une manière ou d'une autre, on n'est pas nés à entendre parler de la taxe carbone pour encore un an. Je sais que ça tombe ses nerfs sur de plusieurs personnes, mais il faut rappeler une chose au final. Peut-être que la taxe carbone fédérale, on ne la paye pas au Québec. On en paye le prix indirectement à travers nos relations économiques, mais une chose est sûre, si demain matin, on avait un premier ministre Legault qui dit « Moi, je suis écœuré d'appliquer la taxe carbone provinciale, on va juste plafonner ça », on va la réduire ou on va l'éliminer, ben on se retrouve avec la taxe carbone fédérale qui débarque dans notre cour le lendemain. Et ça, c'est une réalité qui est arrivée dans d'autres provinces. Les provinces qui n'ont pas voulu appliquer la taxe carbone sont retrouvées à payer la taxe carbone fédérale d'une manière ou d'une autre. Donc, faut se rappeler qu'on n'a pas vraiment le choix de la payer et c'est peut-être là-dessus que les Québécois vont se sentir interpellés. Mais Poilievre a beaucoup de job à faire pour effectivement continuer à expliquer cette taxe-là, puis surtout de convaincre les bloquistes de voter de son bord là, pour essayer de renverser le gouvernement Trudeau. Sinon, on va devoir attendre octobre 2025 pour se décider là-dessus.
Nicolas Gagnon, ta job est importante. La Fédération canadienne des contribuables, vous êtes très, très, très important. Merci d'être là. Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable.ca.
Exactement. C'est toujours un plaisir.
Oui, sauf quand tu me parles de taxe carbone, ça me titille.
Ben, j'ai pas le choix.
Salut, Nick. Bye-bye.
À bientôt, salut.
Bye. L'excellent Nicolas Gagnon, à qui on aime jaser à chaque semaine. 1h04, on va faire une courte pause. 418-971-1021, si vous voulez réagir. 418-971-1021. Il se passe quelque chose sur la route, vous êtes nos yeux et nos oreilles. Marceau, le midi.